Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier de passer ce temps particulier à réfléchir, à être près de Dieu, près de Marie, d'avoir pris sur vos vacances ce temps particulier. Dans le milieu dans lequel je suis, ce milieu politique, qui est un milieu tellement décrié, il est évident que, je vous le dis sincèrement et profondément, que je n'aurais pas pu tenir si, à l'occasion de mes rencontres depuis plus de 10 ans dans toute la France, je n'avais pas vu vos visages de jeunes, exigeants, assoiffés de connaissances et de vérité, qui, ces visages, m'ont permis de penser que ce à quoi je croyais, ce qui m'obligeait à réclamer des sacrifices à moi-même, à ma famille, à mes amis, eh bien demain, vous, les jeunes, vous reprendriez le flambeau et qu'il était indispensable qu'il y ait une voix, peut-être la mienne, qui puisse s'exprimer à tort et à travers, à temps et à contre-temps. Donc à vous, vraiment, sincèrement, je vous dis merci. Et je vous dis en préambule également que si vous êtes ici, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est naturellement le fruit de votre volonté, mais aussi parce que comme chrétien, chrétien peut-être en recherche, chrétien convaincu aujourd'hui, vous êtes appelé demain à prendre là où vous serez, quel que soit votre niveau de responsabilité, que ce soit dans le corps médical, que ce soit comme chef d'entreprise, que ce soit comme mère de famille, que ce soit comme balayeur de la commune dans laquelle vous habitez, vous êtes appelé à assurer et assumer une responsabilité qui sera d'annoncer l'Évangile lorsque vous serez en position de maturité, c'est-à-dire quand vous serez vraiment établi dans la vie active, ce que l'on appelle la vie adulte. Donc merci à vous. Vous êtes pour moi tous individuellement, chacun de vos visages, un signe d'espérance et d'espérance qui vous dépasse et d'espérance pour notre pays. Alors je suis cet après-midi-là invitée pour témoigner de ce que je vis comme catholique dans un milieu tout à fait particulier qui est celui de la politique. Je voudrais non pas vous parler de politique, mais vous dire un petit peu, non pas comme un modèle, comme un exemple, mais quelle a été ma vie jusqu'à présent, vous dire comment dans ce milieu dans lequel je suis, j'assume ma responsabilité et mon identité catholique avec joie, et puis peut-être vous dire un petit peu comment, par quels moyens, je peux arriver à me maintenir dans ce milieu particulier. Encore une fois, ce que je vous livre, ce que je vais vous dire, je vous le dis simplement, non pas comme un exemple à suivre, mais simplement comme un témoignage. Une femme, en 1998, mariée, mère de 3 enfants, grand-mère de 2 petits-enfants, qui se trouve, j'en suis pour ma part convaincue, avoir été appelée par le Seigneur dans ce milieu particulier de la politique. Alors, qui je suis ? J'ai 54 ans, je suis française, mon père s'appelait Martin et ma mère s'appelait Durand. Donc vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est véritablement la vieille souche française. Je suis issue d'une famille de tradition catholique, je dirais plutôt de culture catholique, mais il se trouve, sans vous donner trop de détails, que j'ai une enfance assez douloureuse, parce que j'ai perdu ma mère, j'avais l'âge de 5 ans, et que perdre sa mère est une souffrance que l'on porte jusqu'à son dernier souffle. Que pendant cette enfance, à une période où c'était la pleine expansion en France, les 30 Glorieuses, mon père connaissait le chômage et j'ai connu la pauvreté. Et puis, nous étions des catholiques de culture, nous n'étions pas pratiquants, nous allions à la messe le dimanche, Mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que cela, notre réflexion. Et puis, il se trouve que dans les différentes petites souffrances ou souffrances réelles de ma famille, mon père, qui, par rapport au canon de la société, a plutôt raté sa vie, c'est un homme extraordinaire puisqu'il est mon père, mais à l'époque où tout le monde réussissait, lui ne réussissait pas du tout vis-à-vis des critères sociaux. Il avait parmi ses échecs, bien qu'il ne nous l'ait jamais dit, eu 3 filles alors qu'il espérait tellement avoir un garçon. Et moi, qui adorais mon père, bien sûr, je me suis dit que j'essaierais de lui donner quelques joies à ce père. Il se trouve que dans ma famille paternelle, il y avait une hérédité d'élus locales. Mes grands-parents, arrière-grands-parents, trisaïeux, étaient maires d'un village du Berry. Et donc mon père, se disant, ayant 3 filles, c'est raté là aussi, on ne pourra même pas reprendre le flambeau. Et moi, je me suis dit, dès l'âge de 15 ans, eh bien, tu verras, j'essaierai d'être une élue locale. Mais je ne lui en ai pas parlé. Je ne voulais pas faire de politique, parce que la politique est un lieu, déjà, il y a des dizaines d'années, était un lieu de compromission, un lieu dans lequel il ne fallait pas mettre ses pieds au risque d'être pollué. Et donc, je ne voulais pas faire de politique, mais servir les autres, rendre service aux autres. Pour moi, l'expression pouvait être, effectivement, d'être une élue locale. Et puis, je me suis fiancée, je me suis mariée, nous habitions à Paris avec mon mari. Et à Paris, mon rêve d'élu local s'évanouissait, puisque à Paris, il faut faire partie d'un parti politique pour pouvoir être élu local. J'en avais fait mon deuil, et puis un enfant est arrivé, 2 enfants, le 3e également, à notre grande joie. Et nous avons estimé avec mon mari que nous devions déménager. Et nous sommes partis, puisque nous étions des cadres moyens. Mon mari est informaticien, moi j'étais journaliste. Et nous avons cherché un logement en région parisienne qui pouvait accueillir dignement notre famille compte tenu de nos possibilités financières. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés dans les Yvelines. Et dans les Yvelines, dans un petit village, je me suis donc rappelée de cette idée que j'avais eue quand j'avais 15 ans. Et je suis allée voir le maire de la commune d'Aufargis dans les Yvelines en 77, et je lui ai dit « Bonjour, monsieur le maire, je suis une nouvelle administrée. Si vous avez besoin de quelqu'un pour les prochaines élections municipales, je veux bien être avec vous. » J'avais regardé un peu ce qu'il faisait, je trouvais que c'était pas mal. Bon, il m'a rien dit. Il m'a dit « Bon, très bien, madame, je suis ravie de faire votre connaissance. » Et puis, on laisse passer le temps. Et puis, en 77, donc à la veille des élections, il m'a téléphoné, il m'a demandé si je voulais être sur sa liste, ce que j'ai accepté. Et notre liste a été élue. Et comme c'était quelque chose qui me passionnait, j'ai beaucoup travaillé pendant la campagne électorale et je suis devenue maire adjoint de cette commune en 1977. Puis maire en 1980 de la commune en question. Je n'appartenais toujours à aucun parti politique, mais naturellement, j'avais mes choix personnels. Comme tout le monde, je savais à peu près où je me situais. Et puis 1980 est arrivé. Pour vous, c'est le début de votre vie, ou presque. Mais moi, j'avais 35 ans à ce moment-là, et Monsieur Mitterrand est devenu président de la République, et je me suis dit, il faut faire quelque chose, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça, à tort ou à raison. Je pouvais me tromper, je pouvais me tromper. Toujours est-il que j'ai regardé ce que je pouvais faire, qu'est-ce que j'avais dans mon escarcelle, qu'est-ce que j'avais dans mon panier, pas grand-chose, sinon que j'étais maire, quand même, d'une petite commune. Et j'avais oublié de vous dire aussi que le maire d'Aufargis, quand il m'a pris sur sa liste, il m'a pris sur sa liste parce que, à l'époque déjà, ça faisait bien d'avoir une femme sur une liste. C'était pas du tout pour mon talent personnel, c'est parce que ça faisait bien d'avoir une dame sur la liste. Bien. 82. Conseil général, je me suis dit, je vais me présenter au Conseil général, puisque le conseiller général était devenu député et soutenait M. Mitterrand. Et à la grande surprise de tout le monde, j'ai été élue. Moi, j'ai trouvé que c'était normal que je sois élue, ça je vous le dis franchement. Moi, je me suis dit, avec mon talent, etc., c'est formidable, je dois gagner. Et j'ai gagné. Donc c'était en 82. En 83... Bon, les choses ont avancé, je suis devenue donc conseiller général. Et en 1986, élection législative. Entre-temps, il faut quand même que je vous dise, vous avez bien compris que je n'avais aucune relation professionnelle, personnelle, puisque j'étais issue d'un milieu qui n'avait pas bien réussi. Je n'avais pas d'argent. Donc je n'avais, a priori, aucun des critères nécessaires pour pouvoir faire de la politique et réussir. Donc je suis devenue conseiller général, j'étais journaliste, et un jour à mon bureau, je reçois un coup de téléphone du cabinet de M. Giscard d'Estaing me disant « M. Giscard d'Estaing souhaiterait que vous travailliez avec lui ». J'ai cru que c'était une blague d'un de mes copains, je vous dis franchement. J'ai dit « Écoute, arrête. » Non, c'est tout à fait ça. C'était le directeur de cabinet de M. Giscard d'Estaing, donc j'ai accepté de travailler. Ce qui m'a permis de rencontrer, et si je vous dis ça, c'est parce que je vais vous donner l'éclairage que je crois, je suis même certaine, de Dieu par rapport à tout cela. Ça paraît comme ça, des choses bizarres dans la vie, mais rien n'est au hasard. Donc, je n'avais pas de relation. Le cabinet de M. Giscard d'Estaing me demande donc de travailler avec lui. Ce que je fais, ce qui m'a permis pendant un an de rencontrer d'anciens ministres, des chefs de grandes entreprises, des personnalités que naturellement je n'avais pas vocation à rencontrer. Et puis, grâce à ces travaux, à tort ou à raison aussi, je me suis dit « mais ça ne va pas du tout ». Giscard se trompe complètement sur toute la ligne, ça ne va pas du tout, son histoire. Donc je vais m'éloigner un petit peu de lui et je me suis rapprochée de M. Barre. Et les élections législatives sont arrivées, j'appartenais à l'UDF, puisque quand on est au niveau de conseil général, on est obligé d'appartenir à un parti politique. Je pourrais peut-être en parler tout à l'heure dans le petit groupe que nous aurons. Le fait que je me rapproche de M. Barre fait que M. Giscard d'Estaing a dit « Madame Boutin, il n'est pas question qu'elle aille aux législatives ». Donc, je me suis présentée aux élections législatives en 1986 contre tous les partis politiques, l'UDF, le RPR, le PS, le PC, tout le monde dans les Yvelines, avec le soutien de M. Barre, et j'ai été élue. À la surprise générale, pas la mienne, toujours pas, parce que je trouvais ça normal. Le soir des élections, mais quand même un mois après, je me suis dit, écoute Christine, t'es peut-être une fille géniale, mais enfin, il y a quand même quelque chose de bizarre. Il y a des gens qui essaient d'être députés, qui passent leur vie à essayer d'être député. Toi, en 4 ans, tu deviens maire, conseiller général, député. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu t'arrêtes un petit peu, que tu réfléchisses un petit peu à la signification de tout ça. Je reviens sur mon engagement catholique. Je vous ai dit que j'étais issue d'une famille culturellement catholique. Et il se trouve qu'à partir de mon mariage, j'ai pris une certaine liberté vis-à-vis de mon engagement et de ma foi catholique. Et donc, en 83-84, le hasard, on pourrait dire, a fait que l'on m'a parlé des foyers de charité. Un jour, une de mes belles-sœurs m'a dit « Christine, tu sais, tu devrais aller dans un foyer de charité, ça te ferait du bien. » Alors, je me suis dit « je vais aller dans un foyer de charité. » Alors, je suis allée dans un foyer de charité. Je ne sais pas si ça vous fera la même, ça vous fait la même affaire ici. Mais moi, quand je suis allée la première semaine dans un foyer de charité, vous savez, on est pendant une semaine en silence et on a des enseignements. Je suis restée pendant une semaine, j'ai écouté, je n'ai absolument rien compris de ce qui m'était dit. Mais rien, rien. Je suis sortie de là-dedans, en disant c'est bien, c'est calme, on est plutôt bien là, mais... Bon, la seule chose qui m'avait ennuyée, c'est que j'étais allée dans un foyer de charité des Yvelines et qu'il y avait des habitants des Yvelines qui m'avaient reconnue, donc j'étais pas complètement tranquille. Alors je me dis, il faut que je recommence, je vais aller dans un autre foyer de charité, puisqu'on est si bien, c'est calme, il y a de la musique quand on déjeune, c'est sympathique. Je vais aller dans un autre foyer de charité, et donc je suis allée dans le foyer de charité de Tressin, dans les Côtes d'Armor. Et là, il y a des adeptes là, Tressin, je vois. Et là, je dois dire que j'ai compris le sens de présence dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française. Quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale en 1986, contre tout le monde, donc n'ayant aucun soutien de personne, je me suis vraiment demandé ce que j'allais faire là-dedans. Et je me suis rappelée qu'en 1975, à l'époque où je mettais mes enfants au monde, j'avais fait partie de la France silencieuse par rapport à la loi sur l'avortement. Et je dois vous dire que je me souviendrai toute ma vie de ce matin où mon mari a l'habitude de mettre la radio pour nous réveiller, où j'ai entendu que la France, pendant la nuit, avait voté la loi sur l'avortement. Et en 1986, et en particulier lors de ma retraite au foyer de charité de Tressin, ce silence, mon silence, m'est apparu comme étant insupportable. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé, en toute inconscience, d'être, pardonnez-moi de la vanité et de l'expression, mais je crois qu'elle est vraie, donc je peux la dire, d'être la voix de la vie à l'Assemblée nationale française. Choisir de défendre la vie en 1986 ou défendre la vie en 1998 est un choix excessivement difficile. Je ne vous le dis pas pour que vous soyez admiratif du combat que j'essaie de mener, mais simplement parce que c'est la vérité. C'est un combat difficile. À côté de ce combat pour la vie, en 1986 déjà, la famille, l'institution familiale n'allait pas très bien en France, et j'ai donc décidé de m'occuper de la famille et de la vie. Mes amis, mes vrais amis, parce qu'en politique, vous savez, on a beaucoup d'amis, mais on a peu de vrais amis. Mes vrais amis m'ont dit, mais enfin Christine, ne choisis pas ces sujets-là. Tu es sûre de ne jamais être réélue si tu choisis l'avortement et la famille comme thème de spécialisation. Et moi, en conscience, portée par la prière, la réflexion, l'aide de prêtres, j'ai décidé, quoi qu'il en soit, de continuer et de défendre la famille et la vie. Je vous remercie, vous êtes gentille. Ce que je veux vous dire, surtout, c'est que, naturellement, quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale et que j'ai décidé de m'intéresser sur ces sujets, d'être spécialiste de ces sujets, j'étais inconsciente de ce qui m'attendait. Mais ça, c'est une grâce particulière du Seigneur. Le Seigneur m'a permis de ne pas être consciente, à l'époque, de tout ce qui allait m'attendre comme difficulté, comme obstacle, comme persécution est un peu fort parce qu'on y voit des problèmes physiques, mais une persécution intellectuelle réelle. Et heureusement, et je rends grâce et je loue Dieu de ne pas m'avoir donné cette lumière à ce moment-là, parce que peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais pris la poudre d'escampette. Si je vous dis cela, c'est parce que je veux vous apporter le témoignage que lorsque l'on dit oui à Dieu, il est toujours à nos côtés, toujours dans toutes les circonstances. Et que lorsque l'on a dit oui, notre joie est immense et par la grâce de Dieu, on devient invincible. Il est normal d'avoir peur. Le Saint-Père nous a dit « N'ayez pas peur ». Parole extraordinaire. N'ayons pas peur. Mais ce n'est pas simplement « N'ayons pas peur pour n'ayons pas peur ». Mais parce que nous ne devons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas avoir peur si nous sommes avec Dieu. Je vous en apporte le témoignage aujourd'hui. Dire que les choses sont faciles, non. Les embûches sont permanentes. On est totalement toujours sur le devant de la scène et on est examiné par tout le monde, à la fois par les catholiques, qui sont souvent très exigeants et ils ont raison de l'être, par les non-catholiques, qui sont également très exigeants et qui vous demandent à vous-même, lorsque vous vous êtes positionné comme catholique, comme étant un modèle de vertu, ce que je ne suis pas, ce que nous ne sommes pas. Mais avec Dieu, nous pouvons avancer dans la joie. Je voudrais que vous soyez convaincus de cela. Et au fur et à mesure que les difficultés avancent, que les obstacles se lèvent, et ils sont nombreux, et je ne sais plus ce matin si c'était le père Pascal ou le père Marido qui faisait allusion à l'imaginaire, mais c'est vrai que l'imaginaire est capable de créativité absolument incroyable par rapport aux obstacles, par rapport aux méchancetés, par rapport à l'intolérance. Mais lorsque l'on est avec Dieu, on a cette paix profonde, ici, qui se situe là. Non pas là, mais là. Cette certitude de ce chemin, cette certitude de la vérité. Et l'autre qui est en face de soi, l'adversaire, celui qui utilise même les coups les plus bas et les moins acceptables, celui-là devient un frère. Et à partir de ce moment-là, c'est celui qui est en face de vous, devient véritablement votre frère. Il vous est possible de lui pardonner et vous avancez dans la joie. Naturellement, il faut aussi avoir cette dimension d'amour et de charité par rapport à l'autre, quel qu'il soit. Mais il faut aussi avoir nous avons l'obligation de l'exigence. Souvenons-nous du passage de l'Évangile où, pardonnez-moi de ne pas le dire exactement dans le texte, mais vous en souviendrez, où Jésus envoie ses disciples pour aller dans les maisons, pour porter la parole. Et si la parole n'est pas entendue, le Christ dit, eh bien, vous sortez de la maison, vous secouez la poussière de vos sandales et vous allez sur un autre chemin. Et c'est là où se mesure cette chose extraordinaire de ce Dieu que nous aimons, qui est l'amour, vis-à-vis de la pauvre créature que nous sommes, nous. C'est cette liberté que notre Dieu, qui nous a créés, qui est l'amour, et qui nous donne à chaque instant la possibilité de dire oui ou de dire non. Ça, on n'a pas besoin de prendre un porte-voix. On n'a pas besoin de faire des grandes manchettes. C'est dans le fond de notre cœur que cela se passe. Mais il n'empêche que ce Dieu d'amour est un Dieu qui nous donne la liberté. Et c'est la raison pour laquelle la Vierge Marie est tellement pour nous un modèle, ce fiat de Marie, qui est pour nous l'exemple à suivre. Et je vous dis très profondément que même si parfois ce « oui » nous paraît démesuré par rapport à notre faiblesse, par rapport à notre intelligence, par rapport à nos possibilités physiques, eh bien, si nous disons ce « oui » dans la confiance en Dieu, Dieu nous donne les moyens d'avancer. Dieu nous donne les moyens d'avancer. Et une des choses qui surprend le plus mes collègues à l'Assemblée nationale, c'est de voir, de constater que je n'ai pas peur, qu'en apparence je n'ai pas peur. Ils ne savent pas en profondeur aussi je n'ai pas peur. Mais ils me le disent souvent, mais enfin Christine, comment fais-tu? Je ne dis pas naturellement que je suis le seul député chrétien ou catholique, ce serait stupide de dire cela. Ce qui est certain, c'est que je suis certainement identifiée comme telle. Quand j'ai commencé à l'Assemblée nationale, je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce que je vais faire pour être députée et catholique? Nous sommes dans un État où il y a une séparation très forte entre l'Église et l'État, et où l'on nous dit qu'il n'est pas possible d'imposer sa religion ou ce que l'on pense à l'autre, et bien sûr. Où l'on nous dit qu'il y a une vie publique et une vie privée. Et je me suis dit, mais Christine, comment vas-tu faire, toi? Tu es députée, Donc il est évident que là, c'est la chose publique par excellence. Comment vas-tu pouvoir être également catholique ? Par paresse, j'ai décidé que je ne serai qu'un, ou j'essaierai d'être un, parce que ce n'est pas facile d'être un, mais j'essaierai d'être député et catholique. Parce que j'ai pu constater, et je ne le dis pas pour jeter l'anathème ou la discussion ou pointer le doigt sur quiconque, mais j'ai pu constater très nombreuses fois parmi mes collègues qui sont députés, chrétiens ou catholiques, et qui, sur des sujets essentiels, par exemple du respect de la vie, me disent « Mais Christine, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Sur le plan privé, ma conscience, je suis complètement d'accord sur le problème de l'avortement. Tu as parfaitement raison. Mais tu comprends bien que je ne peux pas imposer ce que je pense en conscience à mon vote public. Ce n'est pas possible que j'impose ma conscience à mon vote public. » Et cette réalité-là, pour moi, elle est l'explication des grandes difficultés que connaît notre pays aujourd'hui. Alors, naturellement, dans le monde politique, c'est caricatural, comme tout ce qui est politique, tout ce qui est en politique est caricatural, grossit des milliers de fois, et donc ça se voit très fortement. Mais en fait, nous sommes dans une société où, que j'appellerais schizophrène, c'est-à-dire une société qui a deux personnalités. Elle a sa vie privée, et puis elle a sa vie publique. Et il ne faut surtout pas que la vie privée ait de l'influence sur sa vie publique, ou que la vie privée, les choix de la vie privée puissent avoir une influence sur les choix de la vie publique. Et cette dichotomie-là fait que nous sommes dans une société qui perd naturellement ses repères, puisqu'il n'y a plus aucune cohérence. Et moi, je crois, et du reste, le Christ nous appelle à l'unité, et nous savons bien, sans être député, combien c'est difficile d'être un. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps d'arriver à véritablement être un, essayer de trouver l'unité entre l'âme et le corps et ce que l'on est entre l'être et l'avoir. Ce sont des parcelles de secondes où nous pouvons atteindre cela. En tous les cas, moi, c'est mon expérience. Mais il n'empêche que nous devons tendre vers cette unité. Nous devons aller vers cette unité. Et comment voulez-vous que dans ma responsabilité politique, je puisse être deux ? Mais comment voulez-vous que le médecin, dans sa responsabilité médicale, puisse être deux ? Comment voulez-vous que le notaire soit deux ? Comment voulez-vous que femme de ménage soit deux ? Comment voulez-vous que chômeur soit deux ? Ce n'est pas possible. C'est un rêve. C'est une construction de la pensée. Ça relève peut-être de l'imaginaire. Mais ce n'est pas la vérité, ni la réalité. Et je pense profondément que nous devons aller vers cette unité. Alors, comment faire pour essayer de tendre vers cette unité ? Je vais vous donner quelques-uns de mes moyens. Et qui sont des moyens infaillibles. Infaillibles. Du reste, voyez, il y en a deux. Le premier, c'est la prière. La prière, c'est quelque chose de rébarbatif, au départ. C'est quelque chose d'un petit peu difficile. Puis il y a des jours où on a plus envie de prier que d'autres. Mais il n'empêche que la prière, en tous les cas pour moi, quelque chose d'indispensable pour que je puisse essayer d'être une, d'être exigeante pour l'extérieur, mais exigeante vis-à-vis de moi-même. Ceci ne veut pas dire que je ne tombe pas. Ceci ne veut pas dire que je ne fasse pas d'erreur. Mais pour moi, la prière est quelque chose d'essentiel. Et j'ai à l'Assemblée nationale un groupe de prière tous les mercredis. Et s'il y a des Parisiens dans la salle, je les invite vivement à venir à 18h30 au 101 rue de l'Université. Au début, quand j'ai créé ce groupe de prière le mercredi, comme il faut montrer patte blanche à l'Assemblée et que je ne connaissais pas obligatoirement les personnes qui allaient venir, eh bien le mot de passe c'était parrainmonial. Alors maintenant, on n'a plus besoin, les huissiers sont habitués, ils savent qu'à 18h30, il y a un certain nombre de personnes qui viennent pour voir Madame Boutin. Alors tout le monde rentre dans ce bureau, qui n'est pas grand, et puis nous disons un chapelet. Et je crois que c'est très important, ça fait 8 ans que ce temps de prière existe à l'Assemblée, et je crois que c'est important d'avoir ce temps de prière du chapelet et de Marie à l'Assemblée. Et puis, alors actuellement, il y a la prière quotidienne, qui est indispensable. Il y a la prière aussi, vous savez, à l'Assemblée, on a des temps morts. Il y a des moments où on s'ennuie. Hein, il y a des moments où c'est pas toujours drôle. Alors plutôt que de laisser son esprit vagabonder, eh bien moi, personnellement, je prie. Je prie la Sainte Vierge. On a un couloir qui fait 300 mètres pour aller de l'hémicycle à mon bureau. Laisser vagabonder ma tête, eh bien, je personnellement, je prie. Alors, je salue, bonjour monsieur Fabius, bonjour monsieur. Et je continue ma prière. Pendant ce temps-là, au moins, je ne perds pas mon temps. Voilà. Et puis, le deuxième moyen, pardonnez-moi de ces mots qui sont très mal adaptés, mais qui sont pour moi quand même des outils indispensables, à côté de la prière, il y a l'Eucharistie quasi quotidienne. Dans un emploi du temps plus que chargé, je me suis rendu compte qu'il était indispensable que j'aie cette rencontre avec le Seigneur quasiment tous les jours pour pouvoir tenir d'une messe à l'autre. Sans cette rencontre du corps à corps entre le Seigneur et moi, je suis persuadée que je n'aurais pas pu tenir depuis 12 ans à l'Assemblée nationale. Et je pense que cette rencontre privilégiée, extraordinaire, comme cela nous a été si bien dit ce matin par le Père Marido, de cette rencontre avec le Christ par l'Eucharistie est une richesse que nous ne pouvons même pas mesurer. C'est un joyau, un trésor tellement extraordinaire qu'il nous dépasse, bien sûr, dont nous ne comprenons pas tout, bien sûr, et moi aussi. Mais il n'empêche que, pauvre que je suis, je viens à la rencontre de mon Seigneur qui s'offre et qui se donne pour que je puisse le rencontrer. Et je suis convaincue que si... j'ai pu affirmer à temps et à contre-temps, à l'Assemblée nationale, sur les plateaux de télévision, à la radio, partout où on m'a demandé de le faire, sans jusqu'à présent, que Dieu me garde, sans jusqu'à présent me renier, c'est parce que, justement, j'ai eu, autant que j'ai pu le faire, une rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie. Et je suis convaincue pour ma part que quelle que soit la mission à laquelle chacun d'entre vous est appelé, puisque vous êtes tous appelés à une mission particulière, si vous vous appuyez sur la prière et sur l'Eucharistie, vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur. Vous n'aurez plus peur de parler, vous n'aurez plus peur d'être. Ceci implique et nous habitue aussi et nous façonne à l'amour. Il faut, en tous les cas, c'est ce que j'essaie d'être à l'Assemblée nationale, c'est d'être catholique, d'être respectée comme telle, mais de respecter l'autre en face de moi, quel qu'il soit. Et que cet autre sente que véritablement la relation que j'ai avec lui est une relation d'amour, même si lui ne comprend pas, même si lui, ça le dépasse, même si il est aux antipodes de ce que je crois, ou du sentiment, ou du regard que je porte plutôt sur lui, eh bien que l'autre soit véritablement considéré comme étant à l'image de Dieu, quel qu'il soit. La Vierge Marie nous aide aussi. Marie, qui est toujours fidèle, présente à côté de nous, et qui est pleine de douceur. Je pense que si on lui prend la main, si on lui demande la main, elle nous la donne. Elle nous la donne, je vous en donne. Vous savez, quand je monte à la tribune de l'Assemblée et que je me fais ruer, je ne suis pas toujours vaillante, hein, ce n'est pas toujours facile. Mais quand je sais, moi, que j'ai la Sainte Vierge avec moi, j'ai mes anges gardiens, j'y vais gaillarde. Voilà, mes chers jeunes, ce que je voulais vous dire. Pour moi, je vous le dis simplement et en vérité, un honneur d'avoir pu parler devant vous. Je remercie vraiment la communauté Saint-Jean d'avoir fait appel à moi pour venir vous parler. Il y a bien d'autres témoins qui auraient pu venir. Ce que je veux, ce que je voudrais, pardon, parce que je ne veux rien, vous avez votre liberté, ce oui, ce non, c'est que j'aimerais que vous compreniez, c'est que vous êtes tous appelés à une mission et que toutes les missions sont belles. Il y a des missions qui sont visibles, et il y en a d'autres qui sont invisibles, mais elles sont toutes très importantes. Et vous êtes tous appelés à cette mission. Et que si vous êtes là, certes, vous êtes jeune, certes, vous êtes minoritaire, mais c'est à vous que reviendra de prendre le flambeau. Vous avez beaucoup de vos amis, de même peut-être dans vos familles, des jeunes gens, des jeunes filles, qui n'ont pas eu la chance de cette rencontre avec Dieu, et qui sont peut-être droits dans leur basket, mais peut-être certains d'autres sur le bord du fossé, et bien que ce soit les uns ou les autres, ils auront un jour besoin de vous, parce que c'est vous qui avez la vérité, même si vous êtes sur le chemin de cette vérité, ce qui est normal à votre âge. Vous ne pouvez pas tout avoir à votre âge, moi non plus j'ai rien, je n'ai pas tout à mon âge, mais je continue à avancer, nous avançons tous. Il est normal que vous cheminiez, que vous cherchiez, mais soyez sûr que le Seigneur vous appelle et que si vous savez entendre cet appel et si vous savez lui répondre oui, ils seront à vos côtés pour vous aider à mener la mission pour laquelle vous êtes fait. Je vous remercie.
Vous êtes très gentil. Ce qui me ferait, vous êtes très gentil. Je vous remercie beaucoup. Je suis très très touchée. Mais je crois, ce qui me ferait le plus plaisir, c'est que tous ensemble, nous chantions la Sainte Vierge. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. De vos